Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Un auteur, une voix, avec écrivainbreton.org. Avec nous aujourd'hui et avec vous, chers amis auditeurs, Samuel Lewis. Samuel est un jeune homme qui habite en centre-Bretagne, mais il va nous en parler davantage. Et il n'est pas français d'origine. Samuel, qui êtes-vous ?
Je suis gallois d'origine. Mais j'ai été né en Angleterre, donc. Mais je suis venu avec mes parents habiter centre-Bretagne quand j'avais l'âge de 7 ans, donc en 94.
Il y a déjà quelques années.
Ouais, 27 ans.
Ah ouais. Et le Pays de Galles, finalement, vous y retournez de temps en temps ou...
En fait, on n'a pas retourné beaucoup du tout, en fait. Parce que mes grands-parents sont décédés assez jeunes. Donc, on n'a pas eu grande raison de retourner.
Non. Et c'est dans quel coin du Pays de Galles, vous étiez ?
C'est le sud-ouest, Carmarthen.
Ah oui.
C'est un peu comme ici, c'est des vaches laitières et les petites parcelles.
Et un paysage un peu comme ici, en fait ?
Oui, la pluie. quelques degrés plus froid, je pense, mais à part que ça ressemble.
La pluie, ça fait pousser l'herbe.
Ouais.
Voilà, ce qui est essentiel, après tout. Et alors, vous êtes arrivé à Duhaut directement ?
Oui, on a racheté une ruine à Duhaut. Et mon père avait passé 4-5 ans pour construire, petit à petit, parce que ça prend du temps et de l'argent. Et lui, il a fait tout seul. Donc, on attendait, on vivait dans une caravane sur le terrain. Mmh. Et, ouais, donc, c'était... On est déjà dû depuis le début.
Il faut être courageux, quand même, pour entreprendre une telle rénovation.
Oui. Oui, j'étais jeune, j'étais... Donc, mais oui, c'est vrai. C'était un grand changement de vie quand même pour mes parents. Donc,
ouais.
Mais qui m'a plu aussi parce que c'est la ruralité, en fait, d'ici. Que la Grande-Bretagne, même en campagne, ça a devenu très urbanisé.
Très urbanisé, ouais, c'est ce qu'on entend effectivement, et que ici l'espace et la nature, notamment au centre-Bretagne, sont quand même préservés, si on peut dire.
Et oui, et en plus, les gens sont plus cool, parce qu'en Grande-Bretagne, je rappelle, on n'a pas le droit de on va d'aller là où on veut. Il faut suivre les chemins et les routes.
Ah oui.
Et ça nous a pris des années pour comprendre qu'on pouvait jouer dans un champ d'agriculteur. Et ça l'embêtait pas.
Mmh.
Et en fait, parce que ma mère, elle me disait toujours qu'il fallait pas marcher sur le champ du voisin. Mais ici, en fait, si l'agriculteur te voit jouer sur une ronde de foin, c'est cool. Il est content plutôt. Donc,
Ben, il est content de voir des petits aussi auprès de lui. Et puis ça ne dérange pas vraiment, quoi.
C'est ça, mais en Grande-Bretagne, c'est pas ça. C'est... Quelqu'un est sur mon terrain, c'est chez moi.
Ah ouais, ouais.
Et aussi, il y a beaucoup de délinquance parmi les jeunes. Donc, s'il y a des jeunes sur ton champ, évidemment, c'est « Ah, mais qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont mettre du feu sur le foin. » Donc, c'est une mentalité. C'est un paysage, mais aussi, on a retrouvé, je pense, une mentalité plus rurale.
Et une mentalité peut-être avec les voisins, aussi avec le voisinage. Vous avez des amis dans le coin. Et je pense que vous avez été accepté aussi en arrivant. Il n'y a pas eu de soucis.
Oui, je pense que... En fait, en 94, il y avait beaucoup de bretonnants, des vieux, des retraités, des agriculteurs, qui avaient vraiment un esprit d'accueil incroyable. Je rappelle le voisin, il nous a dit... Ma porte est toujours ouverte.
Ouais.
Dès que vous passez, en fait, tu viens, même si je ne suis pas là, tu te chauffes. Mais
ça.
Il était juste à côté, donc il n'y avait pas besoin, mais il nous a expliqué ça. Et c'était juste un partage.
C'est émouvant de l'entendre dire de votre bouche, parce que c'était traditionnel au centre-Bretagne, on laissait la porte entrouverte. Ça ne voulait pas dire qu'on rentrait, mais si on avait besoin de rentrer, on rentrait. Et puis, il n'y avait pas de porte fermée à clé, il n'y avait pas de,
non.
Même pas fermée, quoi. Ça voulait dire que bon, bah, chacun respectant l'autre. On ne va pas rentrer non plus chez quelqu'un pour lui piquer des affaires, quoi.
Mais oui, mais tout le monde est respectueux.
C'est ça.
Et tout le monde peut être accueillant, ouais. Et chaleureux, donc.
Et ça veut dire que c'est une vie, en fait, qui a existé, mais qui aurait pu durer. Et qui pourrait durer, quoi. Il faut faire confiance aux gens, aux voisins, au moins aux gens qu'on connaît, quoi.
Oui.
Voilà, il peut y avoir d'autres choses, mais au moins les gens qu'on connaît. Et donc, après, vous vous êtes installé et votre père et vous avez fait des reportages à un moment donné pour Central Britannique.
Oui, mon père, mes parents, en fait, ils ont créé la revue Le Central Britannique Journal en 2004. Et c'était une revue pour les anglophones du centre-Bretagne.
Et en quoi ça consistait? Qu'est-ce qu'ils ont voulu partager peut-être des expériences d'anglais installés en centre-Bretagne?
Oui, en fait, c'était le moment où il y avait beaucoup de Britanniques qui venaient installer. Et c'était plutôt un outil pour les aider à vivre et s'intégrer dans la Bretagne. Mais mon père était écrivain, donc lui, il dirigeait les articles. Mais il y avait aussi un petit annuaire avec des publicités pour aider les gens de trouver un maçon, un plombier.
Et votre père donc est écrivain, il continue toujours?
Oui, il rédige toujours le journal et il écrit toujours.
Est-ce qu'il écrit autre chose que dans le journal? Il a peut-être des...
Oui, il avait, quand j'étais plus jeune, parce que en fait... Mes parents nous ont scolarisés à la maison, donc je ne suis pas allé à l'école. Et mon père, il avait notamment écrit des livres sur l'éducation, comment faire avec ses enfants à la maison, aussi des week-ends si les enfants sont à l'école, mais des activités, un peu de pédagogie. Et tout récemment, on a collaboré sur un livre ensemble sur l'agriculture.
Ah oui. Alors vous, votre père fait ça, et vous, vous êtes parti dans le dessin, mais davantage encore sur votre vie à vous deux. Vous produisez sur votre exploitation petite ce qu'il faut pour se nourrir.
Oui, ça a devenu un peu le projet. Ce n'était pas l'idée du départ. Quand j'étais petit, je ne travaillais pas forcément beaucoup dans le jardin. Mais c'est quelque chose qui m'est venu quand j'étais adolescent, que la terre avait du sens pour moi. C'était généreux. Je trouvais que c'était généreux. On travaillait un petit peu et ça me redonnait beaucoup. Donc c'était quelque chose que je faisais un petit peu plus tous les ans. D'où est venue l'idée à la fin de voir qu'est-ce qu'une terre peut vraiment produire. Si on le nourrit, si on le soigne, qu'est-ce que ça peut m'apporter?
En fait, vous allez à l'essentiel, la terre nourricière.
Oui. C'est un chemin, ça m'étonne un peu tous les ans. Mais au début, c'était les choses de base, c'était le potager. J'ai commencé avec le potager. Après, j'ai eu envie de faire mes céréales, parce que le pain, c'est quand même la base de la vie, et les crêpes,
parce que... Ah ben ouais, surtout en Bretagne, on aime ça.
Et après le bois, je me suis lancé dans la fabrication des sabots cet hiver. J'avais toujours eu envie de faire des sabots, donc l'idée que le talus pouvait me chausser aussi... Gratuitement, c'est une idée qui... Oh, ça serait super.
Là, vous avez tout, en fait. La nourriture, les sabots, le bois pour se chauffer. Le sabot. Mais il faut du hêtre pour faire ça, non? Du bois de hêtre?
Oui, il faut entretenir les talus. Mais sur les talus, il y a de tout. Donc, c'est le chêne qui est plutôt pour les maisons, les grandes constructions. les noisettiers pour les fagots, pour les bois de chauffard. Pour les bois de chauffard, j'ai les hêtres, ouais, c'est plutôt un grand arbre. C'est un petit peu moins sociable, je trouve, avec les cultures. Donc, on l'éloigne un peu, mais ouais, pour les sabots et les bols, je fais aussi des bols.
Ah, des bols aussi.
Ouais. Mais l'idée, en fait, pour moi, c'est juste l'idée que qu'est-ce que ma terre peut me donner.
Non, mais c'est quand même une grande idée. Et vous parlez des fagots, les gens ont oublié un peu ce qu'est un fagot. Qu'est-ce que c'est un fagot?
Oui, en fait, ça c'était quelque chose que mon voisin, agriculteur retraité, m'a appris à faire. Et après, le plus de sortes de fagots, mais c'est juste, c'est surtout les petits bois et liés. Et c'est mon voisin qui m'a montré comment lier avec un brandy de bois.
Ah ben ouais, ça c'est un tour de main à prendre quand même.
Mais oui, et donc on fait le petit... En fait, on le fait, on tord dans le bois. En fait, c'est tous, on tient le bois et on le tord. Et après, ça se plie sur elle-même, le bois, parce que c'est tordu. Et comme ça, tu peux faire des nœuds.
Ouais, et on peut faire un anneau, quoi, en fait.
Oui, tu fais un anneau et après, tu mets l'autre bout dans l'anneau et tu tords encore. Et après, si tu stockes bien, c'est un lit qui... Mais au début, on a fait avec du ficelle. Et le désavantage avec les ficelles, c'est que les souris, en fait, ils vont dans le tas de fagots, ils prennent le ficelle pour les nids. Donc, même si c'est sec, tu n'as plus de lien à la fin.
Ah ouais, les souris, ben, elles se servent aussi. Hein. Chacun se débrouille, quoi, en fait.
Ouais.
Mais dans les fours de boulanger, il fallait pratiquement, remarque la ficelle, oui, mais il fallait des liens en bois, quoi. Les liens en fil de fer, par exemple, c'était exclu pour les fours de boulanger.
Oui, j'imagine,
ouais. Parce que là, c'était, ça ne brûlait pas, quoi, donc on ne pouvait pas faire ça.
Non.
Alors, ce bois, et puis le blé, mais le blé, on sème du blé.
En fait, je veux juste couper parce que je sème très peu de blé maintenant, je sème du seigle.
Ah.
Et tous les anciens m'ont dit, depuis que j'ai commencé du seigle, que ouais, le Centre-Bretagne, c'est un terre de seigle, ce n'est pas un terre de blé. Donc,
C'est vrai, c'est une terre trop acide pour le blé. C'est une terre aussi pas assez lourde probablement pour du blé, ce qui fait qu'il fallait mettre des amendements. Des amendements calcaires à un moment donné, il y avait un four à chaux à l'armoire précisément, un four à chaux. Donc on extrayait du minerai de chaux et puis on avait de la chaux vive qu'on a encore aujourd'hui qu'on mettait sur les champs. Et de l'autre côté de Calac, on allait chercher du sable du 13 à Plestin-les-Grèves avec des chevaux et finalement on ramenait des charretées comme ça de tresse, du sable coquillé. En fait, il fallait apporter du calcaire.
Ouais,
quoi.
Ouais.
Le calcaire était indispensable pour que ça pousse. Alors, après, votre blé, vous prenez du seigle, mais le seigle, c'est une paille assez longue. Et puis, en production, ça va quand même, le seigle?
C'est une super plante. Je suis vraiment amoureux de mon seigle. Depuis que je pousse du seigle, je ne me plains pas du tout. Je suis novice, agriculteur novice, mais le seigle ne m'a jamais déçu. C'est une plante rustique et robuste. Et après, c'est une paille longue. Et traditionnellement, c'était même plus longue. Quelqu'un m'avait montré une variété qu'il avait, qu'il était vraiment beaucoup plus haut que le mien.
Ah,
le mien, sur une bonne année, ça me dépasse quand même. Les tiges de seigle, ça tient debout dans le vent. Ça n'a pas trop de maladies. Et ça fait un bon pain, le pain du seigle, ça fait un bon pain, il faut le travailler un peu plus lentement, en fait, sur 3 jours, parce que ça gonfle plus lentement. Mais aussi, avec la paille, on ne fait pas que du pain avec le seigle, on fait aussi une toiture.
On fait aussi de la toiture, ouais, ça c'est formidable quand même.
Et ça, j'avais envie de faire un petit cabane en chaume. Pour tester.
Ah ouais. On l'utilisait aussi pour faire le cidre.
Et oui, en plus, et je fais aussi du cidre.
Ah oui. Et le seigle, la paille de seigle est longue, effectivement, sur le pressoir, oui, entre les couches.
C'est ça, là-bas. C'est tellement long, on pouvait mettre un paille de seigle et plier la morte avec...
Ah ouais, ouais. Et comment vous faites pour battre le seigle?
Ça, c'est qu'en fait, le bateau, c'est quelque chose qui a évolué pendant plusieurs années. Mais maintenant, on fait que la main.
Ah oui.
Au début, j'ai commencé avec... J'avais un voisin qui avait un moissonneuse-batteuse. Donc, j'avais coupé et amené chez lui. Mais maintenant, j'ai fabriqué un fléau.
Ah oui, oui,
c'est
oui.
C'est un voisin qui m'a prêté son vieux fléau et j'ai copié le modèle. C'est assez simple, je mets un drap par terre, je mets les gerbes sur le drap, et moi et mon père, nous partons avec deux fléaux.
Voilà, et on tape dessus.
On tape dessus, et ça va assez vite. Pour une petite consommation, ça va assez vite, une après-midi ou deux.
Pour nos amis auditeurs, nombreux sur Bretagne 5, donc c'est toujours avec Samuel Lewis. Et alors, il parlait du fléau. Le fléau... On connaît, mais dans un autre sens. Le fléau consistait à relier deux bâtons en bois avec du cuir, de façon à articuler le fléau. Et puis ça servait à battre le blé avant les machines, en fait. On tapait sur les épis et le grain, bien sûr, tombait en dessous, quoi. C'est le fléau. Le seigle, donc après, vous avez votre grain de seigle, mais après, il reste aussi de la balle autour, enfin, c'est autour de la graine.
Oui, et là, j'avais récupéré un vieux tarare, un ventars en breton.
Un ventars, c'est ça.
Ouais.
Et le tarare, alors, quelle est son utilité?
C'est une machine à vent, en fait, ça crée du vent. C'est une machine magique, on met le grain sur... à l'entrée, et après on tourne la manivelle, et ça crée du vent.
Ça crée du vent, et donc...
Et ça sépare les grains sont plus lourds, donc les grains tombent, et tout le bal, et la poussière, et la paille, ça sort par le devant.
Voilà, et le grain du coup est pur, c'est effectivement le plus lourd, donc le grain, et ensuite... comme ça, on aura toute la chaîne, comme on dit aujourd'hui. Et ensuite, ben, il faut le moudre.
Mais oui. Et ça, c'était la dernière étape que j'ai voulu trouver une solution pour faire la main. Mais ce n'est pas évident. Donc, j'ai rajouté un petit moulin électrique. Quelque chose assez simple, en fait, avec deux petits meules en granit. Donc, je moule la farine avec ça. Donc, comme ça, je peux faire tout chez moi.
Et le four?
Et le four, ça c'était un défi aussi. J'avais construit et déconstruit deux fois avant que j'ai eu le bon modèle.
Ah oui, oui, oui.
Parce que c'est assez technique en fait avec l'échauffement et l'air, comment ça circule.
Ouais.
Mais oui, j'avais construit mon four et que j'allume avec des fagots de bois. Et maintenant, je fais ça depuis 4 ans. Je ne fais mon pain qu'en ça. Donc,
vous faites une fois par semaine ou...
Ouais, à peu près, ouais.
À peu près, ouais. Mais le pain de seigle se conserve bien aussi.
Oui.
C'est comme s'il était frais, en réalité. Voilà, alors, vous avez de la terre, vous avez combien d'hectares et comment vous combinez tout ça pour pouvoir avoir chaque année... suffisamment de seigle, suffisamment d'autres choses aussi, peut-être des pommes de terre ou peut-être autre chose, pour vivre.
On a 4 hectares en total, donc c'est beaucoup. Et je cultive peut-être la nourriture sur 4000 mètres carrés maximum. Donc c'est juste une petite... j'ai 4 ou 5 champs que je cultive. Et à ce moment, je fauche les autres avec la faux. Et je mets la paille comme paillage sur le champ. Et je fais la rotation entre les 4-5 champs. C'est blé noir. À ce moment, je suis en train de labourer un champ où j'avais semé du blé noir. On a fait la moisson du blé noir et j'avais semé du seigle. C'est en bonne condition. Il n'y a pas grand-chose à faire. Et ouais.
Alors ça, c'est donc, on a dépeint le cadre dans lequel vous travaillez, votre travail. Et puis, eh bien, j'ai vu vos dessins. C'est de qualité, c'est du talent. Des dessins et puis du livre aussi illustré. Alors, vous pouvez nous dire un mot là-dessus ?
Oui, ça c'est mon nouveau projet. J'ai toujours dessiné depuis que j'étais tout petit. J'ai beaucoup dessiné. Et après, j'ai beaucoup jardiné. Et l'idée m'est venue récemment de dessiner ce que je jardine, dessiner mon jardin. Parce que je vois que j'ai une façon de travailler la terre un peu atypique, qui peut être intéressant aussi pour les autres. Et donc j'ai créé un personnage qui est un peu moi et qui fait les mêmes travaux que moi. Donc et j'avais créé un BD, un bande dessinée expliquant comment j'ai créé mon terrain avec les petites parcelles. J'avais refait les talus, planté des arbres. J'ai voulu expliquer aux gens comment j'ai fait tout ça, parce que ils viennent chez moi, ils croient que ça existe depuis longtemps, et je dois les dire, mais non, c'était avant, il n'y avait rien, même pas un arbre. Il n'y avait...
C'est le dessin qui explique tout ça au lecteur, en fait.
Ça, c'est mon idée, je veux expliquer tout en dessin, avec pas beaucoup de texte. Et donc, c'est plutôt comme si on travaillait, c'est comme la meilleure façon d'apprendre, c'est souvent juste de travailler avec quelqu'un. Si tu veux apprendre un métier, c'est un apprentissage, tu travailles avec eux, tu vois comment ils font, et on suit les bons gestes. Et c'est ça que j'ai voulu remettre un peu dans mon livre, juste des dessins, mais en fait des bons gestes. Donc les gens, en regardant, ils prennent en tête en fait comment tenir l'outil, comment travailler, quoi faire.
Et c'est une façon agréable de découvrir aussi au travers du dessin.
Oui, et c'est même très ouvert aux enfants.
Aux enfants aussi, alors.
Ouais.
Et les enfants, c'est vrai qu'eux se projettent assez facilement dans ces milieux, quoi. La nature les attire facilement. Et les livres que vous avez écrits, donc, vous en avez plusieurs ?
Oui, j'ai fait un premier avec mon père, que lui, il a écrit et moi, j'ai illustré.
Et quel est le titre ?
Le travail à le où.
Ah.
Donc, pour expliquer que on travaille, on travaille avec une où. Comme il y a longtemps, les petites parcelles, on aura pu s'appeler ça le travail dans une porcage, mais en fait c'est plutôt la façon qu'on travaille dans les petits champs à la main.
C'est un travail à la main, donc c'est un outil, finalement, comme une bêche, du même genre en fait. Mais c'était à l'époque où on travaillait la terre justement avec la houe, et tout se faisait à la main, à la force de l'homme, quoi.
Oui. Et donc le travail où après j'ai fait une année avec la terre. Ça, c'était une première bande dessinée que j'avais fait. Donc ouais. Ça raconte l'année mois par mois et les travaux à faire en chaque mois.
Les travaux de la terre mois par mois sur une année.
Oui, c'est ça.
D'accord.
Et le dernier, c'est redonner vie à la terre. Parce que c'est ça que je sens que j'ai fait chez moi quand je suis arrivé. C'était un petit peu en désordre, notre terrain. Il n'y avait pas de talus, il n'y avait pas de fruitiers, il n'y avait pas d'arbres. Et on a fait notre mieux pour donner un peu de vie.
Et ça, vous l'avez mis aussi en dessin ?
Oui, ça c'est en dessin, ouais.
Et la notion de vie, de redonner vie, tout ça, c'est quand même une notion intéressante. Et même si on l'a un peu oubliée, elle peut redevenir essentielle dans la vie de la campagne.
Mais oui, à mon avis, c'est ça que j'ai envie de faire, c'est redonner vie à la terre, mais à la campagne, c'est de remettre après les foyers où étaient les anciens. Quand je suis arrivé, la plupart sont vides. Et moi, mon rêve serait de remettre cette chaleur, en fait, d'accueil.
Les anciens doivent apprécier votre travail. S'il y en a encore autour de vous ?
Oui, ils me taquinent sur ce que je fais, je les taquine aussi, et on vit ça plutôt bien, ouais. Après, chacun son façon de travailler.
Bien sûr, bien
mais
sûr.
Mais moi, j'ai beaucoup d'apprendre à eux, donc j'écoute toujours.
En fait, votre vie, vous la faites comme ça, et puis elle est très bien. Et je pense d'ailleurs qu'il y a des gens qui doivent vous envier. Il y a des gens qui se demandent comment vous faites, quoi. Pas de patron sur le dos.
Oui, c'est... Après, pour moi, j'ai fait le choix de vivre avec mon père. Donc, on partage les factures, on partage la voiture. Donc, évidemment, c'est un choix pratique qui me dégage plus de temps. Et c'est vrai que j'ai pas certaines choses que les autres ont. Mais j'ai aussi du temps pour...
Et des choses que d'autres n'ont pas. Tout le monde parle d'écologie, mais vous la pratiquez au quotidien et vous en vivez dans le cadre de cette écologie et proche de la nature. On arrive à la fin de l'émission et merci à vous d'être venu.
Merci Michel.
Eh bien, je vous souhaite un bon retour chez vous. C'était Un auteur, une voix. Avec écrivainbreton.org. Nous avons reçu Samuel Lévis.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.